Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le ministre d'État, ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Monsieur le ministre d'État, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation. Alors, le 12 juillet dernier, les partisans de la France, les indépendantistes et l'État signaient à Bougival un accord qualifié d'historique. On parlait de pari de la confiance. Depuis, le FLNKS a rejeté cet accord que sa délégation avait signé. Vous dites qu'il faut avancer. Hier, vous avez installé le comité de rédaction chargé de consolider les textes des lois constitutionnelles et organiques. Est-ce que ça veut dire, monsieur le ministre, qu'on peut mettre en œuvre Bougival sans le FLNKS ?
Moi, je ne veux pas mettre en œuvre l'accord de Bougival contre le FLNKS ou contre toute organisation ou sans cette organisation, par principe. Mais vous l'avez rappelé, l'accord de Bougival a été signé par tous. C'est en soi qu'il était historique, puisqu'il n'y avait pas eu d'accord de ce type depuis celui de Nouméa, depuis 1998. Et puis il est historique parce qu'il crée un État sui generis, l'État de la Nouvelle-Calédonie, parce que cet État peut être reconnu au plan international, parce qu'il assumera la compétence internationale, parce qu'il aura une nationalité calédonienne, sans perdre la nationalité française, et parce que la Nouvelle-Calédonie devra se doter d'une loi fondamentale. Et parce qu'il y a un processus, un mécanisme pour pouvoir ou non transférer les compétences régaliennes. En ça, il est historique et tout le monde s'est engagé à le défendre. Alors, il ne m'a pas échappé que le FLNKS a désavoué sa délégation et rejette aujourd'hui cet accord de Bougival qui est soutenu par des organisations non indépendantistes, partisanes de la France, et des organisations indépendantistes, historiques d'ailleurs, comme le PALICA et l'UPM. Nous avons en effet installé hier le comité de rédaction. J'ai invité aussi d'ailleurs le Sénat coutumier qui participe à nos travaux. Donc moi, je vais avancer, je mets en œuvre l'accord de Bougival. Et j'ai discuté avec le FLNKS, j'ai reçu une délégation de son bureau politique. Ce qu'il me propose, c'est de discuter uniquement avec l'État, sous supervision des Nations Unies, pour que le 24 septembre prochain, nous mettons en œuvre un processus qui aboutirait à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie en 2027, avant l'élection présidentielle. Ça n'est pas possible, ça n'est pas crédible, ça n'est pas sérieux, même si je respecte les convictions des uns et des autres. Donc, ce que je veux vous dire encore une fois ce matin, avec tranquillité, avec la volonté d'écouter tout le monde, c'est que nous mettrons en œuvre, d'un point de vue législatif, institutionnel, constitutionnel, les accords de Bougival qui devront être cependant ratifiés par les Calédoniens au mois de février prochain.
Alors vous rappelez que vous avez reçu effectivement en bilatéral une délégation de ce nouveau FLNKS. Vous vouliez comprendre les raisons peu explicites de leur choix incompréhensible. Est-ce que vous avez compris ? Et est-ce que vous sentez que votre porte reste ouverte ? Vous l'avez répété à multiples reprises. Qui seraient prêts à avancer, à discuter, ou que leur position est complètement bloquée et que ça sera sans eux, effectivement.
C'est à eux de le dire. Ma porte est ouverte. Je n'ai toujours pas compris les raisons profondes. Ils disent que l'identité kanak est niée dans l'accord de Bougival. Ce n'est pas vrai. Elle est rappelée en rappelant les accords de Matignon et bien sûr de Nouméa. Nous rappelons cette histoire. Et d'ailleurs, nous sommes prêts à le préciser si c'est nécessaire. Chacun des partenaires y est favorable. On ne peut pas penser un seul instant que Emmanuel Djibaou, Rokou Hamitan, l'UNI et des organisations comme le PALICA auraient signé à Bougival cet accord s'il niait l'identité kanak. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est vrai aussi pour la question du corps électoral. Nous avons toujours dit qu'il fallait faire évoluer le corps électoral. Il n'existe aucun pays au monde qui gèle son corps électoral. Et donc, moi, j'avais dit qu'il fallait qu'on dégèle le corps électoral, mais dans un accord global. Et c'est ce qui va, bien sûr, arriver si, bien sûr, le processus législatif et constitutionnel, et ensuite, si les Calédoniens adoptent cet accord de Bougival. Donc, je n'ai pas compris. Je peux comprendre des positions très fermes, voulant l'indépendance tout de suite, mais ça, c'est la position d'une organisation qui veut passer en force. C'est eux qui veulent passer en force.
Mais c'est le reproche qu'ils vous font.
Oui, mais ça...
avec toujours ce risque de menace induite ou de menace sous-jacente de mobilisation qu'ils appellent pacifique pour l'instant. Et c'est la question que se posent les Calédoniens. Est-ce que l'État sera capable d'assurer l'ordre public, même si le nouveau FLNKS veut s'opposer à la mise en œuvre de cet accord de Bougival, il n'y aura pas de nouveau 13 mai.
Il ne peut pas y avoir de nouveau 13 mai. C'est-à-dire, il y a un accord qui a été signé par des indépendantistes et des non-indépendantistes. Il y a une organisation, le FLNKS, qui veut imposer sa logique, l'indépendance tout de suite, et qui d'ailleurs veut discuter uniquement avec l'État, sans les autres partenaires, ce qui nie totalement l'histoire de ces dernières années où les discussions se sont faites à trois, enfin, indépendantistes, non-indépendantistes et État. C'est ce qui a permis le retour de la paix et de la réconciliation à partir de 1998. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi ce nouveau FLNKS, comme vous l'appelez, nie cette histoire. Et de même sur la nationalité, je veux dire, si nous voulons vivre ensemble, il faut en effet un peuple calédonien qui nie en rien l'identité des uns et des autres. Mais les responsables du FLNKS m'ont dit qu'il n'y avait qu'une seule nationalité possible, la nationalité kanak. C'est nier tous les autres. Donc c'est contraire d'ailleurs au message de Jean-Marie Djibaou, au message d'Emmanuel Djibaou lui-même, défendu avec beaucoup de force et beaucoup de talent lors des élections législatives, et qui rappelait que la devise de l'Union calédonienne, c'est un peuple,
de
couleur. Donc c'est une régression d'une certaine manière, et je le regrette. J'entends les manifestations, les oppositions, les arguments. Il ne peut pas y avoir de menace. Et je réponds très clairement à votre question et très tranquillement. L'État doit assurer le plein exercice de la démocratie, des votes et aussi, bien évidemment, la tranquillité publique. Il y a 20 escadrons de gendarmerie.
Ils vont être maintenus.
Des forces. Ils vont être maintenus. Renforcés si nécessaire tout au long de cette période, sous l'autorité du haut-commissaire qui fait bien son travail. Il y a un nouveau général de gendarmerie qui suit cela attentivement. Du côté de la gendarmerie comme de la police, il y a aussi des process qui ont été révisés, une nouvelle organisation sur le terrain, un contact également évidemment avec la population dans toutes les provinces, et c'est le travail de la gendarmerie, c'est le travail aussi de la police sur Nouméa, et j'ai eu l'occasion de rencontrer leurs responsables, et le travail va être fait. L'état de droit est le meilleur moyen de protéger tous les Calédoniens, sans distinction d'origine, et l'exercice de la démocratie, et je dis à vos auditeurs, parce que je sais qu'ils sont sensibles à cela, que l'État assurera pleinement ses compétences. Et par ailleurs, nous avons besoin de cet accord, parce que s'il n'y a pas d'accord, il y a des élections provinciales, au mois de novembre, qui se feront dans des conditions de radicalisation des discours, de confrontation, et ça sera évidemment pour le débat public, pour la démocratie, mais aussi pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, un échec profond. Donc Bougival est une chance pour tous, et il faut la saisir.
Alors, vous disiez tout à l'heure un accord historique, effectivement. Comment on y est arrivé ? Vous avez réussi à concilier l'inconciliable, comme vous disiez à un moment, réussi à réconcilier des aspirations contraires ?
Oui, mais je dois dire que ce sont d'abord les délégations calédoniennes qui ont réussi cela. On critique beaucoup les élus, les responsables politiques, c'est facile. Hein, bon. Mais là, ce sont elles, ces délégations, qui ont permis de trouver cette voie qui, en effet, permet de concilier des aspirations différentes. L'État, moi-même, les représentants du président de la République et du Premier ministre, nous avons fait notre travail, mais c'est grâce au fait qu'il y a eu un vrai dialogue, la recherche d'un compromis entre les différentes délégations que nous avons pu avancer. Moi, j'ai vécu les heures qui ont suivi la signature de l'accord de Bougival, et puis la rencontre ensuite le soir avec le président de la République, une espèce de soulagement, il y a une espèce d'explosion même de soulagement et de joie. C'est vrai à Paris, et c'est encore davantage vrai ici à Nouméa. Donc cet esprit, j'ai bien entendu qu'après la décision du FLNKS, il y a eu un de coup de bambou, non, hein, de sentiment, décidément, on n'y arrivera pas, non. Je veux rassurer les Calédoniens, nous allons avancer tranquillement, nous assurons l'ordre public, nous continuerons à faire en sorte que l'économie, parce que c'est extrêmement difficile aujourd'hui, puisse démarrer. C'est mon 4e déplacement ici. Je vais le prolonger de 48 heures pour conforter le travail que nous sommes en train de faire. Demain, il y aura un nouveau comité de rédaction. Nous essayons d'éclairer, de préciser, de donner des compléments nécessaires à l'accord de Bougival. Nous aurons une nouvelle réunion lundi matin. Ma porte est ouverte avec tous les partenaires pour que on puisse venir. Et c'est la seule chose que je demande au FNKS et à son président, que je suis prêt à rencontrer quand je rentrerai à Paris, c'est qu'il nomme une délégation, parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui, qui soit en capacité de revenir, de discuter, d'enrichir l'accord de Bougival. Il y aura différentes étapes, le projet de loi constitutionnelle, la loi organique, évidemment la loi fondamentale.
Vous êtes prêt à rencontrer le président du FLNKS malgré sa situation judiciaire ?
Oui, parce qu'il y a un moment où moi je l'ai déjà dit, je connais sa situation judiciaire, mais si c'est un moyen de permettre le retour du dialogue, mais sur une base constructive. Je pas si c'est un dialogue de source, ça n'a quoi ça. J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans un entretien au Parisien lundi dernier, que j'étais prêt à le rencontrer. J'ai déjà fait passer ce message avant. Donc c'est à lui de saisir la main que je lui tends, et à condition qu'il y ait une délégation, parce que ce n'était pas le cas, le bureau politique me l'a dit, ce n'était pas à eux de discuter, de négocier. Mais je veux dire, moi, si c'est pour négocier l'indépendance de la Calédonie dans 2 ans, le débat risque d'être relativement court. Il sera courtois de ma part, mais il sera évidemment extrêmement court. S'il s'agit en revanche de préciser les éléments qui permettent d'enrichir et d'avancer sur Bougival, chacun y est prêt, toutes les délégations y sont prêtes. Moi, je constate une... Franchement, avec tout ce que le pays a connu, notamment au moment des événements de mai 2024, d'avoir des délégations indépendantistes et non indépendantistes, des délégations qui se sont affrontées sur le plan politique, retrouver le chemin de la réconciliation, c'était le cas à Bougival. Et moi, je suis convaincu qu'on doit pouvoir avancer les uns avec les autres, et j'espère que la raison reviendra, l'emportera. Je dis attention d'ailleurs, parce qu'il y a des slogans de nouveau, Bougival, c'est la trahison, on crache sur les morts, on humilie le peuple kanak, mais tout ça est faux, est profondément faux, au contraire. Dans la Constitution, nous allons rappeler, on va reconstitutionnaliser Nouméa, on va constitutionnaliser l'accord de Bougival, l'identité du peuple kanak est pleinement préservée, on rappellera ce qu'est la Nouvelle-Calédonie, c'était aussi cette agrégation formidable de communautés, et qui doivent avoir ce destin commun, il ne peut pas en être autrement, c'est la belle notion de peuple calédonien.
Vous croyez vraiment qu'il existe un peuple calédonien ? C'est une notion qui est très discutée, qui ne fait pas l'unanimité aujourd'hui.
Oui, mais c'est à partir du moment où il y aura une citoyenneté calédonienne, à partir du moment où il y a une nationalité calédonienne et française, bien sûr qu'il y a des différences. Bien sûr qu'il y a eu des fractures, des haines qui sont revenues ou qui se sont imposées. Mais en tout cas, il y a un destin commun, chacun est sur cette terre de Nouvelle-Calédonie. Hier, j'avais une très belle réunion à Koné, il y avait 60 ou 70 personnes, nous avons parlé des questions économiques, de l'avenir du secteur du nickel, du tourisme, des problèmes de santé. J'ai fait des annonces aujourd'hui importantes dans ce domaine-là, parce que l'État prend ses responsabilités, on met 1, on finance très directement avec l'ordre de Malte et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une équipe de 5 personnels de santé qui vont tourner sur l'ensemble du territoire, et c'est qu'une première étape. Et donc avec 1,4 million d'euros, 163 millions de francs pacifiques, on finance là, et c'est l'État qui assume pleinement cette dépense, parce qu'il faut répondre aux problèmes de vie quotidienne des Calédoniens. Donc l'État est là, et moi ce que je voyais hier dans la salle, c'est des Calédoniens d'origine différente. Alors c'est vrai en brousse, c'est vrai dans le Nord, on trouve cela, mais les gens ont envie de vivre ensemble, même en venant ici à la radio, les gens qui m'encourageaient, les gens ont envie de vivre ensemble, ont envie de calme, ont envie de reconstruire, parce qu'aujourd'hui, l'avenir en Nouvelle-Calédonie, il est marqué par des mauvaises nouvelles, des entreprises qui partent, des mines qui peuvent fermer, donc faisons attention, et ceux qui font de la désinformation crée les conditions d'une tension. Donc il faut que l'accord de Bougival se mette en œuvre tranquillement, et ça sera le rôle notamment du Parlement.
Justement, voilà, il y a un calendrier qui est quand même précis. Très contraint. Certains vont dire que vous y allez un peu à marche forcée. Il y a la loi organique déjà pour eux, reporter les élections à juin, les élections provinciales à juin 2026. Vous espérez une promulgation de cette loi dès la mi-octobre ?
Oui, c'est ça.
Il n'y aura pas de problème au Sénat, semble-t-il, puisqu'il y a eu cinq groupes qui l'ont...
Il y a six groupes sur huit. Je pense que ça sera approuvé à l'Assemblée.
Et à l'Assemblée nationale.
Je pense aussi qu'il sera...
La défection du FLNKS ne vous fait pas craindre qu'il y ait une partie de leur soutien à l'Assemblée qui refuse de s'associer à ce processus ?
C'est toujours possible, mais moi je vais argumenter sur la nécessité de ce report jusqu'au mois de juin. Et puis ensuite... Pourquoi ? Mais parce qu'il faut une réforme constitutionnelle. Non, ce n'est pas à marche forcée, c'est tout simplement parce qu'il faut dérouler un calendrier. Vous rappelez, j'étais venu ici à ce micro, il aurait fallu trouver l'accord au 31 mars pour pouvoir dérouler plus tranquillement ce calendrier, se donner le temps nécessaire. Donc là, on est, c'est vrai, contraint par un calendrier. La réforme constitutionnelle, ce qui intègre, d'abord, qui permet... la consultation du mois de février qui crée la loi organique spéciale, c'est-à-dire qui va remplacer la loi organique issue des accords de Nouméa et qui permettra au Congrès de la Nouvelle-Calédonie de se doter d'une loi fondamentale. Je la présenterai en Conseil des ministres sous l'autorité du président de la République mi-septembre, et elle sera débattue en novembre et en décembre par le Sénat et par l'Assemblée nationale pour une adoption, si possible, par le Congrès réuni à Versailles, comme pour toute réforme constitutionnelle, le 15 décembre. Donc oui, ça va vite. Ensuite, consultation...
Même dans le climat politique national, que vous connaissez mieux que nous, ça va être possible de réunir le Congrès de Versailles, d'avoir cette majorité 3/5. Vous en êtes convaincu,
Je suis toujours extrêmement modeste et plein d'humilité, comme on dit ici, face à ces défis. Mais je crois que c'est possible. Vous savez, la Nouvelle-Calédonie transcende. Moi, la réaction des formations politiques après l'accord de Bougival est extrêmement positive. Le président de la République, le Premier ministre, les présidents des deux chambres, Yael Braun-Pivet, Gérard Larcher, la grande majorité des présidents de groupe. Bon, donc il faudra évidemment convaincre, mais je crois que c'est possible, et je pense que le miracle calédonien créera les conditions d'un miracle français, en tout cas sur ce dossier. Donc oui, il faut avancer. Et en plus, on voit bien, c'est important de le faire à ce rythme et dans ces conditions-là, parce que la Nouvelle-Calédonie ne peut pas attendre encore plusieurs mois d'incertitude. Donc c'est important, mais il y a un énorme travail. Vous savez, la loi organique issue des accords de Nouméa, c'est 300 articles qu'il va falloir répartir entre la nouvelle loi organique spéciale et la loi fondamentale que le nouveau congrès de la Nouvelle-Calédonie, issue des prochaines provinciales, devra élaborer. Donc il y a un énorme travail à faire. D'ailleurs, en le présentant hier devant les différentes délégations, chacun sentait qu'il y a... Voilà, on est passé du discours à la réalité. Donc,
oui, c'est vrai que le calendrier était un peu impressionnant. La loi constitutionnelle, elle est indispensable, disiez-vous hier, justement, pour créer l'État de la Nouvelle-Calédonie. C'est là, on est un peu là au cœur de l'accord de Bougival. Les Calédoniens, ils n'avaient jamais... Enfin, la majorité des Calédoniens n'a pas souhaité d'État de la Nouvelle-Calédonie. Ils ont voté pour rester français. Est-ce que cet État de la Nouvelle-Calédonie, cette nationalité calédonienne, ça correspond à la volonté de la majorité des Calédoniens ?
Ils le diront. Leurs représentants l'ont ainsi décidé à travers cette négociation. Indépendantistes comme partisans de rester dans la France, les organisations aussi qu'on appelle du bloc central, comme l'Éveil océanien ou Calédonie Ensemble également, le FLNKS et les loyalistes aussi. Bon, donc vous voyez, donc, et les Calédoniens le diront. Moi, je suis frappé par le fait que les loyalistes, le Rassemblement, Calédonie Ensemble, l'UNI, tous les soirs, depuis des semaines, et encore dans les prochaines semaines, défendent cet accord. Il faut beaucoup d'explications, c'est vrai. Vous vous rendez compte, après cette période terrible que le territoire a traversée, pouvoir expliquer un accord, c'est quoi l'État de Nouvelle-Calédonie qui sera inscrit dans la Constitution française, c'est quoi la nationalité calédonienne, c'est quoi demain une loi fondamentale, comment on assume la compétence internationale, quelle est la procédure qui permet de transférer des compétences régaliennes, comment on partage des compétences comme la justice ou la sécurité, quel est le rôle de la justice ou de la police coutumière, c'est quoi une police provinciale. Vous avez tous ces éléments-là, bah, ça nécessite du temps, de l'explication. Moi, je le fais à votre micro, bah, il va falloir continuer à le faire, et puis aux Calédoniens de se prononcer au mois de février prochain à l'occasion de cette consultation.
Il y a des inquiétudes aussi ou des interrogations sur la nationalité calédonienne. Est-ce que c'est une citoyenneté plus-plus ? Beaucoup de Calédoniens s'interrogent pour savoir si... il risque de perdre un jour la nationalité française.
Non, ça je veux. Non, c'est un des discussions que nous avons eues depuis le mois de janvier. C'est pas un débat nouveau, mais quand on a parlé de tous ces sujets à l'occasion de plusieurs réunions à Paris ou par visioconférence et surtout ici à Nouméa, l'idée doit être claire. Non, c'est il y a une nationalité calédonienne. Et on ne perd pas la nationalité française. Et si d'ailleurs quelqu'un voulait se retirer d'une de ces nationalités, bah, ça n'est pas possible. Donc on est à la fois calédonien et français. C'est ce que nous avons décidé ensemble.
Alors l'une des originalités de l'accord de Montréal, c'est peut-être aussi ce qui a permis de débloquer la situation, c'est qu'il n'y a plus de référendum d'autodétermination, il n'y a plus de oui ou non à l'indépendance, mais il y a un système de transfert des compétences régaliennes éventuellement. Alors les opposants, nous avons, ça a été l'un des arguments du FLNKS, disons, ce sont des verrous infranchissables. À l'inverse, on peut dire, bah non, c'est des verrous qui peuvent passer, donc l'indépendance de la Calédonie, la pleine souveraineté est possible dans l'accord de Bougival.
Le droit à l'autodétermination, il existe. C'est vrai, vous avez tout à fait raison, c'est l'accord original. Depuis le début, tout le monde d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut être cohérent, souhaitait éviter de nouveau le référendum sec, oui ou non, qui divise la société, et nous l'avons bien vu, et vivre pendant 10 ans d'abord et ensuite 20 ans avec cette idée, forcément les formations politiques ne pensent qu'à cette échéance, même si elle est lointaine, et puis elle se rapproche de plus en plus, et vous l'avez vécu à partir du premier référendum. Donc nous n'allions pas revivre cela. Bon, donc, du coup, on a inventé, c'est vrai, ce mécanisme qui change la manière d'aborder ce sujet. Mais c'est vrai que le mécanisme, il existe dans beaucoup de pays. C'est-à-dire, pour le résumer, c'est le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, avec une majorité qualifiée, demande un transfert de compétences. Vous vous rendez compte, si on trouve cette majorité qualifiée, elle est parfaitement atteignable. Mais ça oblige au consensus, ça oblige à trouver des majorités très larges. Et sur ces sujets aussi graves, c'est bien de ne pas le faire à 50-50, mais de trouver une majorité large et ensuite de consulter les Calédoniens. Donc c'est un mécanisme, une procédure, des majorités qualifiées qui peuvent permettre le transfert d'une ou de la totalité des compétences régaliennes. Mais c'est à travers ce mécanisme qui oblige encore une fois à trouver des majorités larges, un consensus, un travail de rapprochement plutôt qu'un travail de division.
Là aussi, les constitutionnalistes métropolitains, le Conseil constitutionnel, tout ça, ça va passer ou vous allez devoir les convaincre aussi, batailler auprès d'eux pour l'expliquer. On crée un État de la Nouvelle-Calédonie, on sait que ça peut créer des contagions éventuellement dans d'autres collectivités d'outre-mer, voire dans certaines collectivités métropolitaines.
Oui, mais la Nouvelle-Calédonie a sa part très particulière dans la Constitution française, son originalité. Je crois qu'on va la garder sans parler de contamination, même si on peut toujours s'en inspirer, bien évidemment. Bon, comme c'est une réforme constitutionnelle, c'est au législateur, c'est le constituant qui a son mot à dire. Il y aura des débats, mais fort de l'accord de toutes les organisations politiques et de beaucoup de gens, y compris au sein de l'UC ou du FLNKS, y sont favorables, nous pourrons avancer. Je rappelle que le président du FLNKS avait donné son accord à sa propre délégation. Donc il faut discuter, il faut convaincre, il faut préciser, il faut respecter les positions des uns et des autres, mais cela entraînera, je pense, je l'espère, et j'essaierai d'être moi aussi convaincant, les députés comme les sénateurs, d'adopter en effet cette inventivité des uns et des autres pour la Calédonie. Mais c'est ça, la Calédonie a sa propre place, elle participe d'une inventivité d'un point de vue institutionnel ou constitutionnel dans notre texte fondamental.
Et tout ça, monsieur le ministre, dans un contexte économique et social dramatique, vous y faisiez allusion tout à l'heure, vous l'avez constaté sur le terrain, sur le plan économique, avec des entreprises qui ferment, énormément de chômage, avec, sur le plan social, avec notamment le problème de la santé, qui devient vraiment crucial. C'est une partie très succincte dans l'accord de Bougival. Vous avez surtout parlé d'institutions, vous avez effleuré les questions économiques et sociales. Est-ce qu'on va avoir le temps de les creuser un peu? Est-ce qu'il y a des réponses qui vont être apportées à la situation économique dramatique de la Nouvelle-Calédonie? Alors on attend le versement de la deuxième tranche du PGE, on attend surtout peut-être la relance de la filière nickel. Est-ce que parallèlement à la mise en œuvre de Bougival, on va arriver à relancer l'économie, à permettre que les choses s'améliorent?
Il y a une partie du texte qui est consacré aux problèmes économiques et sociaux, mais pour beaucoup, ce sont des compétences de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces. C'est vrai aussi pour la jeunesse, mais c'est vrai aussi pour le projet de société. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. L'État a été présent, 1,5 milliard d'euros pour l'année 2024 en plus, et c'est la même chose pour l'année 2025. Nous avons rencontré encore les maires il y a deux jours pour refaire le point sur le soutien aux collectivités. J'ai fait des annonces aujourd'hui concernant la santé. Je le ferai tout à l'heure sur les questions alimentaires, notamment qui concernent les enfants qui fréquentent la restauration scolaire. Sur le nickel, évidemment, il faut des repreneurs, donc nous y travaillons discrètement, mais nous y travaillons avec les élus du gouvernement et des provinces nord et sud essentiellement. Donc ce travail doit être fait. Il est indispensable. Ce qu'attendent les Calédoniens, c'est la reprise économique, c'est du travail, c'est une offre de soins et de santé, c'est que les enfants mangent à leur faim. Donc c'est ce travail-là, sans accord, ce serait très difficile de le réaliser, mais avec un accord, ça reste compliqué, ça reste difficile, et l'État sera présent auprès des acteurs économiques et sociaux, et aujourd'hui, il y a encore cet après-midi, au commissariat, une réunion avec des acteurs économiques.
Sur le nickel, de façon spécifique, vous pensez pouvoir avancer ou... C'est là aussi aux Calédoniens peut-être de définir une stratégie, on l'a beaucoup dit, qui coordonne l'ensemble des forces pour développer la filière.
Il faut y travailler ensemble et l'État doit pleinement jouer son rôle, notamment parce qu'il peut participer à un soutien financier, notamment je pense à tout ce qui concerne l'énergie, puisqu'il faut, c'est là, si on veut être compétitif dans le domaine du nickel, il faut faire baisser le coût de l'énergie décarbonée. Donc là, on a notre, plutôt que de financer à perte, à travers des subventions, tel ou tel secteur du nickel, il vaut mieux investir dans l'énergie. Il faut des repreneurs, il faut élaborer une stratégie avec sa part d'exportation, il faut une vision, notamment sur le Pacifique, par exemple, avec l'Indonésie. Il faut des retombées économiques, fiscales et environnementales qui rencontrent l'adhésion de la population, bien évidemment. Et il faut une organisation de cette filière sur le territoire, entre les usines et les mines. Bon, donc c'est difficile, bien évidemment. Aujourd'hui, on a fermé une usine. Il y a des emplois qui ont été perdus, des soutiens financiers, des aides financières qui se terminent, des menaces de fermeture de mines. Donc la situation reste difficile, mais il y a aussi un travail qui est en train d'être fait et des repreneurs potentiels qui avancent et qui travaillent discrètement avec l'État et aussi, je vous le disais, avec les élus des provinces sud et nord, et que ce soit Sonia Backès ou Paul Néaoutin, ils sont évidemment très attentifs à ces sujets. Donc nous avançons discrètement sur ce sujet-là, j'espère qu'il y aura vite de bonnes nouvelles, mais là aussi, les investisseurs dans ce secteur ont besoin de stabilité, de calme, pour pouvoir investir sur ce secteur qui est essentiel, qui est stratégique, qui intéresse la Nouvelle-Calédonie, mais qui intéresse aussi la France et l'Europe.
Pour conclure, monsieur le ministre d'État, il y a un travail énorme, il y a un calendrier contraint, on l'a vu, un contexte un peu dramatique. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles? De quoi est-ce que vous avez le plus peur, si je puis dire, dans les prochains mois, dans la mise en œuvre de cet accord de Bougival?
Mais il ne faut pas que la peur nous empêche d'avancer et de réfléchir. C'est évidemment le retour de la violence. C'est ça. Mais face à ce risque ou face à cette menace, il faut que les forces politiques, économiques, sociales, il faut que la société calédonienne se rassemble et dise on ne veut plus de cette violence. Et nous voulons avancer. C'est la seule voie possible. Là, je pense que nous trouverons une très grande majorité des gens responsables. Et, je veux dire, on doit être capable de réunir Nicolas Metzdorf, Emmanuel Djibaou, Sonia Baquès, Virginie Ruffnac, Alcide Ponga, mais aussi les responsables de l'UNI, du PALICA, bref, tous ceux qui s'engagent, évidemment, les responsables de l'éveil océanien ou de Calédonie ensemble, mais d'une manière générale, ceux qui ont envie que la Nouvelle-Calédonie avance. Donc je suis... moi, je reste optimiste, parce qu'il y a une volonté de réussir. Nous sommes sur un chemin de crête, je reconnais, c'est difficile, mais nous avons tellement avancé ces derniers mois. L'accord de Bougival représente une étape historique, un moment important. Nous ne pouvons pas laisser tomber cette opportunité. C'est pour ça que je suis venu dire ici, en Nouvelle-Calédonie, comment nous allons mettre en œuvre Bougival. J'ai lu beaucoup de papiers en disant « Valls vient sauver Bougival » ou « Bougival, c'est fini ». Non, 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 non. Nous allons avancer avec un calendrier précis et avec cette volonté déterminée de le faire dans le respect de tous, mais en assurant aussi les conditions de l'exercice de la démocratie.
Et vous restez donc 48 heures de plus en Nouvelle-Calédonie?
Oui, parce que je pense qu'on a besoin encore de délivrer les messages, de rencontrer du monde, d'avoir des réunions du comité de rédaction lundi matin. Ça nous permettra de bien préparer les choses.
Monsieur le ministre, merci d'accepter votre invitation ce midi.
C'est moi qui vous remercie.
Excellent après-midi à tous.